France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Les 80 ans aujourd'hui de l'obtention du droit de vote pour les Françaises. Grâce à l'ordonnance du 21 avril 1944, les femmes deviennent électrices mais aussi éligibles. Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants adopte un énorme plan d'aide à l'Ukraine mais aussi à Israël et à Taïwan. 95 milliards de dollars au total, dont 61 milliards pour Kiev. Et puis une trentaine d'objets précieux pillés il y a plus de 150 ans et jusque-là exposé dans les musées britanniques, renvoyé au Ghana, un renvoi seulement temporaire. C'est aujourd'hui donc les 80 ans du droit de vote des femmes en France. Grâce à l'ordonnance du 21 avril 1944, les femmes deviennent électrices mais aussi éligibles, et cela dans les mêmes conditions que les hommes. Mais l'exercice de leur droit d'éligibilité s'est révélé et se révèle encore difficile, Jeanne Serrin.
Lors des premières élections législatives qui suivent l'ordonnance d'avril 1944, 33 femmes seront élues en octobre 1945. Rachel Lempereur, Marie-Claude Vaillant-Couturier, elles représentent alors un peu plus de 5% des élus. Les années passent, les élections se succèdent sans que cette représentation parvienne à décoller. En cause, le rôle des partis. Ce sont eux qui décident des investitures et à cette époque, celles des femmes ne sont pas retenues, ni même encouragées. Les femmes pâtissent également d'un scrutin uninominal aux législatives qui favorise les candidatures de notables. Des facteurs analysés par la politologue Mariette Sineau. Selon elle, ce sont les lois sur la parité qui permettront de changer réellement la donne. La loi constitutionnelle du 6 juin 2000 contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes sur plusieurs élections. Pour les législatives, l'égalité reste facultative, mais le texte prévoit de pénaliser financièrement les partis qui ne présentent pas 50% de femmes. Depuis, les chiffres sont en hausse, mais toujours pas paritaires. Certains partis préférant s'acquitter de l'amende plutôt que de se plier à la règle. Reste également l'enjeu des fonctions qu'elles occupent. Dans la vie politique locale, le dernier rapport de l'INSEE conclut à une représentation des femmes en hausse, mais sur des fonctions toujours moins élevées que les hommes. 80% des maires ou des présidents des conseils départementaux sont des hommes. La répartition des pouvoirs, l'angle mort de la parité politique en France.
Le droit de vote des femmes, Julie Paco, y reviendra dans son journal de midi et demi avec une invitée, l'historienne Michèle Zancarini-Fournel, professeure émérite au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, sous le feu des critiques des opposants socialistes et écologistes du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, il demande la transparence après un article hier dans le journal Le Monde sur un déplacement professionnel du président de la région au Japon. Un voyage qui aurait donné lieu à d'importantes dépenses. Les écologistes du Conseil régional espèrent que la Cour des comptes diligentera un audit de l'agence organisatrice de ce voyage, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, dont Laurent Wauquiez est le coprésident. Les pharmaciens appelés à baisser leur rideau le 30 mai prochain. Les syndicats veulent alerter sur les pénuries de médicaments et leurs difficultés économiques. Une grève des gardes se profile aussi le week-end de la Pentecôte. Direction les États-Unis à présent, où après des mois de blocage, la Chambre des représentants a enfin adopté hier soir une aide de 61 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Le vote du Sénat devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. Un groupe d'élus ultra-conservateurs s'opposait à cette aide. Loïc Loury, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Le texte a finalement été voté grâce aux élus démocrates.
Oui, par 311 voix contre 112, dont une large majorité de démocrates indispensables à l'adoption de cette enveloppe, les républicains majoritaires à la Chambre se montrant pour beaucoup hostiles à l'idée de signer des chèques en blanc à Kiev, et en particulier un groupe de Trumpistes qui bloquait cette aide militaire depuis des mois. Leur chef de file et patron de la Chambre, Mike Johnson, sera donc finalement passé outre, il risque d'ailleurs désormais sa place au perchoir, pour faire voter ce plan de 61 milliards de dollars. Voilà près d'un an et demi que les États-Unis n'ont pas adopté de nouvelle enveloppe destinée à l'effort de guerre de Kiev face à Moscou. Une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire a immédiatement salué Joe Biden. Le président américain est prêt à signer ce texte dès qu'il sera sur son bureau. Il faudra d'abord un vote du Sénat, possiblement mardi prochain, mais cela ne devrait pas poser de problème.
Alors au total, l'enveloppe votée hier soir s'élève à 95 milliards de dollars et plusieurs milliards iront à Israël, mais aussi à Taïwan pour tenir tête à Pékin.
Oui, un peu plus de 8 milliards de dollars pour Taïwan et les autres alliés de l'Amérique dans le Pacifique, un vote de consensus à 385 voix contre 34 à peine. Autant dire que la menace chinoise est un rare sujet d'entente dans une assemblée minée par les divisions. Cette enveloppe doit permettre de développer des infrastructures pour les sous-marins ou de reconstituer les stocks de matériel militaire de Taïwan, revendiqué par Pékin, car c'est bien la Chine qui reste l'adversaire stratégique numéro 1 de Washington, même si des plans ont été votés hier pour l'Ukraine et Israël. Et ce vote ne sera pas le seul motif de colère pour Pékin dans les prochains jours, car la Chambre a également adopté la possible interdiction de TikTok dans un futur proche, ce réseau social accusé d'être à la solde de la Chine. Les discussions risquent d'être intenses la semaine prochaine pour Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui se rend justement à Pékin.
Loïc Loury, aux États-Unis pour France Culture. Après le vote de l'aide américaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue une assistance qui sauvera des milliers de vies. La Russie, au contraire, affirme que cette aide tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev. En attendant de recevoir ces 61 milliards de dollars d'aide, les Ukrainiens vivent avec la guerre au quotidien. Certains finissent d'ailleurs par oublier le danger à force de voir passer des missiles au-dessus de leur tête, une forme de fatalisme. Illustration dans l'est du pays, dans le village de Voltchansk, à 6 km de la frontière russe, avec ce pêcheur ukrainien rencontré par nos envoyés spéciaux Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov.
Nicolas a posé son tabouret et sa vieille canne à pêche à l'endroit qu'il préfère, au bord de la rivière, malgré le son lointain des bombardements.
On s'est habitué. Il y a une semaine, j'étais assis là. Il y a eu 8 frappes sur le village. Des maisons ont été détruites.
Nicolas a 73 ans. Il dit que pêcher est apaisant. Et il repioche des vers dans sa petite boîte jaune, impassible face aux tirs. Cela semble venir d'Ukraine et frapper la Russie.
Vous voyez, c'est tout près. À chaque fois, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'abord le tir, et 6 secondes après, l'explosion.
Le regard vers la frontière, il est soudain ému.
Qu'est-ce que cette guerre apporte? À nous, à eux, de chaque côté, il y a des morts. On maudit tous cette guerre.
À ses pieds, dans un sachet plastique, 3 gardons fraîchement pêchés s'agitent encore. Les poissons ont-ils peur de la guerre? Et lui, Nicolas?
Moi, ça m'est égal, j'ai déjà vécu ma vie. Si je meurs maintenant, ce sera le destin. C'est la vie, comme on dit.
Et pour ce qui est de l'aide à Israël en guerre avec le Hamas, mais aussi engagé dans un bras de fer avec l'Iran, ce sont 13 milliards de dollars d'assistance militaire qui ont été débloqués. Cette aide servira notamment à renforcer le système de défense anti-aérien, le fameux dôme de fer de l'État hébreu. La présidence palestinienne dénonce une agression contre le peuple palestinien, alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue une défense de la civilisation occidentale. Plus de 9 milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins urgents d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde. Ils avaient été pillés au 19e siècle, une trentaine d'objets précieux en or et en argent jusque-là exposés dans des musées britanniques ont été renvoyés au Ghana cette semaine, mais ce pays d'Afrique de l'Ouest n'a obtenu qu'un prêt de ces objets car les musées britanniques, Frédéric Seyss, restent réticents à toute restitution définitive.
Des bijoux, des broches et même une épée sertie d'or. En tout, 32 objets précieux ont été renvoyés au Ghana pour un prêt de 3 ans renouvelable une fois. Ils avaient été pillés lors des affrontements au 19e siècle entre l'armée britannique et le royaume Ashanti. Ces pièces figuraient jusqu'ici dans la collection de 2 musées londoniens, le British Museum et le Victoria and Albert Museum. Elles seront exposées au Ghana à partir du 1er mai. Ce prêt s'inscrit dans le débat sur les restitutions de biens culturels volés lors des guerres coloniales. En février, d'autres objets issus de l'ancien royaume Ashanti avaient été définitivement rendus par un musée californien. La France, elle, a restitué au Bénin 26 objets et œuvres d'art il y a 3 ans. Jusqu'ici, les musées britanniques préfèrent afficher des explications historiques aux côtés des œuvres exposées, ce qui suscite des tensions diplomatiques. La Grèce exige le retour des frises du Parthénon, pillées selon Athènes et exposées au British Museum. Les autorités britanniques, elles, affirment qu'elles ont été acquises légalement.
Le temps aujourd'hui nuageux avec des averses et même de la neige à l'est, ensoleillé à l'ouest et au sud. Les températures au meilleur de la journée, 10 à 14 degrés sur la moitié nord et du massif central aux Alpes, 15 à 20 du sud-ouest à la Méditerranée.